Midi Plus. Au 106.9 Mauricie, voici Paul Hood.
Allô, Paul.
Bonjour, Robert.
Alors, pour la dernière, avant les vacances, tu as décidé de t'attaquer à un gros morceau, quand même, Donald.
Je t'entendais raconter un peu que c'est rendu, là, c'est d'heure en heure. D'heure en heure, Robert. Qu'est-ce qui va arriver de Washington? C'est historique, quand même. Écoute, ça fait moins de 2 ans seulement qu'il a été assermenté à titre de 45e président des États-Unis. Puis j'ai l'impression que ça doit être la même chose pour toi. On dirait que ça fait 8 ans qu'il est là. As-tu remarqué?
Je pense qu'on va s'ennuyer. Syndrome de Stockholm. On va s'ennuyer du bourreau quand il sera parti.
Ça paraît pas, mais il nous donne du boulot. Il donne du boulot à tous les maintenant, les experts des États-Unis. Moi, ça fait longtemps que je travaillais à la radio. On n'avait pas ça. Un expert uniquement consacré à la scène politique américaine. Jamais. Voyons donc. On avait une espèce de chroniqueur international qui, de temps en temps, traitait des États-Unis. Maintenant, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Et je ne sais pas si tu as remarqué aussi, il tweete de plus en plus tôt. Et maintenant, là, ce sont des tweets nocturnes. 3h40, 3h45 du matin.
Et tous les conseils pour ceux qui tweetent de bonne heure le matin ou tard le soir, c'est de faire attention à son alcoolémie.
Hein? Oui.
Faire attention et d'avoir géré ses pilules. Toujours faire attention. Moi, le téléphone le soir, là, quand tu prends l'apéro, à partir du deuxième apéro, le conseil, c'est de le fermer.
Ben oui,
Donald
évidemment.
N'a pas compris ça, lui.
Ben, il l'a pas compris. Puis souvent, aussi, la nuit, on a des idées peut-être trop clair,
oui.
Pas assez clair. J'ai fait un petit décompte,
oui.
Robert,
oui.
Depuis que Trump a été assermenté en janvier 2017. Donc, ça fait même pas 2 ans. Ça va faire 2 ans à la fin
bientôt,
janvier
oui.
Prochain. C'est au moins, là, c'est pour ça que je t'ai écrit le texte, là, 140 plus le nombre d'employés qui ont gravité autour du président et qui l'ont quitté. Soit par eux-mêmes ou qu'ils ont été congédiés depuis moins de 2 ans. Plus de 140 personnes.
Que veux-tu dire qu'il est imbuvable? Que c'est un sombre pas fin? Qu'est-ce qu'il faut déduire de ça?
Dans le cas de très haut gradé, je vais donner un exemple. Rex Tillerson, il a été secrétaire d'État. Secrétaire d'État, c'est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères. C'est un poste extrêmement important aux États-Unis. Comment ça s'est terminé avec Rex Tillerson, qui, je te le rappelle, est l'ancien grand PDG de Exxon, la compagnie pétrolière, des plus grosses compagnies au monde. Il l'a traité de malade mental. Il a écrit qu'il était stupide comme une roche et paresseux comme l'enfer. Et il a écrit bon débarras.
Bon.
Jeff Sessions, procureur général, l'équivalent du ministre de la Justice aux États-Unis, un poste crucial, important. Et ça s'est fini par une sorte de lente agonie où il le traitait de tous les noms dans les meetings et parfois publiquement pour finir par l'appeler Monsieur Magou. Tu sais le personnage, Monsieur
oui,
Magou?
Oui, je me souviens avec le gros nez, là.
Ouais.
Oui, dans les dessins animés.
Et Sessions, finalement, n'en pouvait plus et a quitté. James Comey a été son ancien directeur du FBI. Évidemment, c'est un autre de ses nombreux ennemis, numéro un. Il l'a traité de délateur, de menteur, de fumier, d'ordure, et il a utilisé souvent le terme « slime ball » qui va dans cette direction-là. Évidemment, Comey est parmi ses pires ennemis. Michael Cohen, son ancien avocat personnel, a écopé de 3 ans de prison hier pour s'être parjuré. Il l'a traité aussi de tous les noms, mais Cohen persiste et signe ce matin. « Tout ce que j'ai dit dans l'enquête, chez l'enquêteur » notamment ce que j'ai dit à l'enquêteur Robert Mueller, qui essaie de faire la lumière dans tous les agissements du président, notamment, est vrai. Le président sait que c'est vrai. Là, il tente désespérément, au moment où on se parle, de couvrir une histoire sordide. Apparemment que le National Enquirer, tu sais le petit journal qu'on achète à côté de la caisse enregistreuse?
Oui, celui qui était par terre souvent. Là,
oui,
quand on
allait... puis qui nous annonce que les extraterrestres ont eu des relations avec Jackie Kennedy dans le temps.
Oui.
C'est vrai. Alors, le National Enquirer aurait été au cœur d'une tentative pour faire taire l'histoire des paiements qui aurait été offert à la star porno Stormy Daniels
oui.
Et une ancienne playmate, Karen McDougal, qui aurait déjà donc été la maîtresse de Trump. Pourquoi c'est si important? Parce qu'on aurait pris de l'argent qui n'a pas été déclaré dans la campagne électorale. Il y a des dépenses que tu dois déclarer, hein, qui sont acceptées,
absolument,
qui ne sont pas acceptées. Ben oui. Alors, ils sont passés par le National Enquirer, qui a acheté l'histoire des deux femmes, qui ont été payées discrètement, un bon montant, 250 000, 230 000, et ils ont acheté l'histoire pour que l'histoire ne soit jamais publiée. Mais là, le National Enquirer a décidé de parler cette semaine, puis on dit, nous, on ne peut pas se parjurer, on ne peut pas ne pas dire la vérité. Oui, c'est exactement ce qu'on a fait.
Mais l'argent vient d'où?
Alors, l'argent venait des proches, et peut-être même directement de la poche, mais c'est pour ça. Ça devient criminel à partir du moment où l'argent a été pris dans la caisse électorale. Si c'est comptabilisé, c'est-à-dire que ça n'a pas été comptabilisé, caché comme une dépense qui visait à servir l'image et taire des scandales, c'est tout à fait illégal, c'est criminel.
Ouais. T'as pas le droit de faire ça. Bon, exemple, on prouve que ce qu'a fait Donald Trump en donnant des ordres...
Si c'est lui, là, si on prouve c'est lui.
Ce qu'on prouve que c'est lui, c'est quoi? C'est la procédure d'impeachment, là, où...
En plus que ça, il fait face à des accusations criminelles avec, au bas mot, une sentence de prison.
À ce point-là, t'imagines que ce gars-là se retrouve à la fin de sa carrière politique dans un an et demi derrière les barreaux.
Mais là, la grande question, Robert, c'est que toi, tu sembles convaincu qu'il lui reste un an et demi devant lui.
Oui.
La question n'est pas aussi claire que ça. Parce qu'on est sur le point, là. On est sur le point, ça ne sera pas avant les fêtes, parce que, excuse-moi, mais le timing ne serait pas très bon. Mais on est sur le point de voir l'aboutissement de la longue enquête de Robert Mueller, le procureur spécial pour charger de faire la lumière dans la possible intervention des Russes dans la campagne électorale.
Pour l'aider, pour le faire passer.
Là. Exactement.
Oui. Avec les fameux... c'était les courriels de son adversaire politique.
De Mme Clinton.
Mme Clinton.
Un des personnages les plus importants, c'est un des êtres les plus obscurs, ténébreux. C'est un proche de Donald Trump, un ami personnel. Il s'appelle Roger Stone. Et il a dit, moi... jamais je ne parlerai à la commission et au procureur pour dire ce que je sais. On a su une chose, cependant, c'est qu'il y a quelques années, il est allé à Londres rencontrer à l'ambassade d'Équateur Julian Assange.
Où?
Et c'est de là que serait partie l'idée de ternir l'image d'Hillary Clinton en se servant de WikiLeaks pour sortir de l'information, en fait sortir les courriels personnels de Hillary Clinton.
Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce gars-là continue à assumer ses fonctions, qui sont très importantes, de président des États-Unis, d'un des pays les plus forts, de continuer à assumer ces fonctions-là sans être dérangé par tout ce qui se passe autour de lui.
C'est une sorte d'impuissance. Je vais t'expliquer en quelques secondes. Le dernier en liste qui quitte, là, je te dis, on est à plus de 140 qui quittent, qui ont quitté. C'est le général, l'ex-général John Kelly, un homme de réputation impeccable, haut gradé. Peu d'expérience politique quand même, son dernier chef de cabinet. Il quitte Robert dans 17 jours.
Hein?
C'est écrit noir sur blanc dans le livre choc du journaliste Bob Woodward. Son propre chef de cabinet, John Kelly, a échappé un jour qu'il a décrit la Maison-Blanche comme « crazy town », l'équivalent d'une ville de fous. Et il a traité le président, son propre patron immédiat, c'est son chef de cabinet, comme étant un idiot. Trump l'a roulé dans la farine et c'est son propre chef de cabinet jusqu'à temps que Kelly n'en peut plus. Et il a dit, moi, le 31 décembre, c'est fini. Imagine-toi, il était en poste quand il a traité son patron de fou et de la Maison-Blanche, de ville de fou, Crazy Town. Il quitte Crazy Town. Et là, tu sais une chose? Le président est de plus en plus isolé. Il a offert à un jeune qui occupe le même poste de chef de cabinet en ce moment avec Mike Pence, le vice-président, M. Ayers, lui a offert le poste. Viens donc travailler comme moi, pour moi, comme chef de cabinet. Et Ayers a dit non, jamais. Et là, il n'est pas capable de se trouver en ce moment un chef de cabinet pour remplacer John Kelly.
Incroyable.
Ça, c'est celui qui fait tous les agendas, qui garde le calme, qui va parler, mettons, au ministre, au secrétaire d'État à la Défense, puis il dit, ben non, faites-vous-en pas, je vais parler au président, il revient au bureau. Il n'est pas capable de trouver personne. Veux-tu savoir quelle est la dernière rumeur?
Laquelle?
De Washington?
Oui, je veux, bien
Et là,
sûr.
Tu risques de tomber en bas de ta chaise.
Oui.
Il est tellement seul en ce moment, tellement désespéré. Il n'y a personne de compétent qui veut se suicider professionnellement pour aller travailler. Pour lui, tout à coup, ça sort mal, là, le rapport de l'enquêteur sur la collusion russe. Tout à coup, puis toi, tu viens de quitter un gros emploi, bien rémunéré dans le privé pour aller travailler dans ces conditions-là. La dernière rumeur,
oui,
c'est que celui qui deviendrait son chef de cabinet, c'est Jared Kushner. Mm-hmm. Son gendre,
okay,
qui est marié à sa fille,
oui, oui,
Ivanka.
Incroyable.
Mais là, si on en est là, dans le guignol, Robert, là, il n'y a plus de crédibilité nulle part. Il n'y a plus de crédibilité à l'échelle internationale. Et tout ça. Ça devient comme une espèce de dictature familiale.
Sauf qu'il va dire, jugez-moi sur mes accomplissements. Est-ce que l'économie américaine va bien? Il y en a qui vont dire oui. Est-ce qu'au plan international, j'ai fait des gaffes? Pas tant que ça. Oui, je fais des... Je suis imbuvable, puis je fais des tweets qui sont irresponsables jour après jour. Mais est-ce que j'ai redonné à l'Amérique sa grandeur? Répondez à la question.
Mais tu as raison de dire ça. Parce que si le bilan était effectivement parfait comme ça, à ce moment-là, tu dirais, ce style de gestion... Moi, je ne juge pas l'homme. Je porte pas un jugement politique. Je ne fais que rapporter ce qui est l'évidence. Mais si, effectivement, il y a une grosse partie de la population, tu sais comment j'aime voyager dans des États où habituellement on met pas les pieds, et ton collègue tout à l'heure avait parfaitement raison, il y a des États où c'est un héros, un héros national, mais il y a d'autres États où en faisant une renégociation de l'accord de
défense. Je cherchais le mot. J'ai dit non, mais Paul Oud doit sortir un mot, un mot savant que je ne connais pas. C'est pour ça que je voulais pas t'aider.
Non, mais c'était la renégociation. Il s'est qualifié lui-même, je suis Monsieur Tarif, Tarifman, dans un de ses tweets. Mais c'est parce qu'on a essayé de lui faire comprendre autour de lui, ses plus grands conseillers économiques, Monsieur le Président, vous allez créer des malaises, plus que des malaises, une situation difficile pour les propres travailleurs américains en vous sortant de ce libre-échange.
À sa façon, il aura marqué l'histoire.
Il aura marqué l'histoire.
Va-tu faire deux mandats?
Moi, je ne suis pas sûr qu'il va terminer ce premier mandat.
À ce point-là?
À ce point-là.
Ouais.
À ce point-là. Ce serait intéressant à surveiller. Peut-être qu'il va pouvoir s'en tirer. Tout va dépendre du rapport de M. Mueller. Si oui ou non, on est capable de remonter jusqu'à Donald Trump en ce qui a trait à une possible intervention, ingérence, devrais-je dire, des Russes dans la campagne électorale 2016 à la présidence. Là, ça va devenir extrêmement difficile, même pour le Parti républicain, de pouvoir l'appuyer.
Paul, je vais te souhaiter de passer un beau temps des fêtes. Amuse-toi bien.
Et toi aussi.
Fais beaucoup de parties.
À toi aussi.
Invite beaucoup de monde chez vous. Ce sera un bonheur de te réécouter, comme à l'habitude,
oui,
à compter du retour des fêtes, à compter de l'hiver. Je sais que nous autres, on va modifier nos affaires. On t'aura plus avec nous autres, à mon grand désarroi. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, c'est comme ça. J'ai essayé de pas trop m'attacher à toi. Alors, ce sera moins difficile.
Mais tu sais pourquoi? C'est que, et je t'annonce en grande primeur avant de te quitter, c'est moi qui ai posé ma candidature pour devenir chef de cabinet de Donald Trump. Je quitte la radio, okay, je m'installe à Washington.
Je pensais que tu étais m'annoncer que tu étais pour aller au Bloc québécois là, contre M. Blanchette. Peut-être. Non, mais non, c'est pas ça. OK. Je te salue, toujours un bonheur de t'entendre.
Si je fais un saut en politique, tu le sais, je m'en vais avec Québec solidaire. J'ai déjà acheté mes bottes.
Et ta tuque.
Et
ton gaminet, bien sûr.
Je suis très heureux, Robert. J'espère que tout... tes auditeurs et auditrices passeront un joyeux temps des fêtes. Et qui sait, l'avenir peut nous réserver des surprises.
À bientôt. Bye-bye, Paul.
Bye-bye.
13h22 minutes. Non, mais si je parle de Yves-François Blanchette, c'est que c'est confirmé, c'est officiel. À partir d'aujourd'hui, il est le chef du Bloc québécois. On va lui parler après la pause.